Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 9 concernant le salut. Le titre pour aujourd'hui sera « Un peuple d'une nouvelle génération ». Un peuple d'une nouvelle génération. Satan a été vaincu. Les pouvoirs du mauvais qui entravent la vie humaine peuvent être détruits. Il y a de l'espoir pour l'humanité. La bonté, la justice, l'amour et la vérité vont prévaloir. Le Seigneur Jésus-Christ est sur le trône de l'univers. Alléluia. Et quand je me suis rendu compte de ces faits dynamiques, ma vie était révolutionnée. J'ai vu la tâche de l'Église comme vitale, urgente et critique. Mon ministère aussi a été revivifié lorsque je me suis abandonné entièrement à la tâche de l'évangélisation. Selon ce que nous dit Saint Luc chapitre 9 versets 1 et 2 et Saint Matthieu chapitre 10 verset 1, cela ne m'a pas découragé qu'on me voit comme hors du respectable. Je me suis abandonné complètement avec ceux qui étaient déterminés de repousser les forces du mal et d'aller vers ceux qui étaient perdus et d'amener le règne de Jésus-Christ au cœur des hommes. Dans la Bible, on décrit ces gens prévoyants comme une nouvelle génération, une race unique, c'est-à-dire ceux qui sont nés une deuxième fois. Du reste, selon l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 9, leur première naissance était de parents normaux, naturels, mais leur deuxième naissance s'est faite par une expérience spirituelle qui transforme la vie par le pouvoir de Jésus-Christ. Notez Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 8, ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Quand quelqu'un devient chrétien, il est une nouvelle personne. Il n'est plus le même. Une nouvelle vie a commencé. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La libération qui accompagne cette nouvelle naissance, elle est exprimée par Charles Wesley dans les mots suivants. « Mon esprit demeurait depuis longtemps emprisonné. J'étais lié par le péché et la nuit était dans mon âme. Or ton œil s'est posé sur moi comme un rayon de soleil. Je me suis réveillé, ma prison flambait avec ta lumière. Mes chaînes sont tombées, mon cœur est devenu libre. Et je me suis levé, je me suis avancé et je t'ai suivi. Voilà le salut véritable. » Voyez-vous, la vie des gens de la nouvelle génération, elle palpite avec la signification, la détermination, la paix, la liberté et la joie quand ils s'embarquent, quand ils veulent bien s'embarquer dans leur tâche donnée par Dieu pour un ministère puissant dans le royaume de Dieu. C'est cela, voyez-vous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il nous a appris que pour entrer dans ce royaume-là, il est nécessaire, vraiment nécessaire, de, premièrement, se repentir. Il y en a qui ne veulent pas faire cela. Il faut un peu d'humilité. Selon ce qui est écrit dans Saint Marc, chapitre 1, verset 15, et Saint Luc, chapitre 13, verset 3. Ceci, voyez-vous, est nécessaire cela nécessite le renoncement au péché ainsi que à son maître. Qui est son maître? Nous le connaissons. C'est l'ennemi, c'est Satan. Oui, nous devons dire « Je renonce au diable et à tout ce qu'il représente. » La pompe et la gloire vaine de ce monde, avec tous ses désirs avides et ses désirs coupables de la chair, pour que je ne les suive pas, surtout plus jamais, ni que je sois mené par eux. C'est ce qui est écrit dans le rituel de l'Église anglicane de 1662 déjà. C'est le service de baptême. Or, cet acte ne devait pas simplement être une impulsion momentanée, mais devait être une disposition d'esprit, d'émotion et de volonté pour toute la vie. Les gens de la nouvelle génération ont conscience du fait que la somme payée pour le transfert qui a acheté leur liberté n'était pas payée en argent, mais par le sang précieux, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Les chrétiens qui obéissent à leur Seigneur doivent encourager l'humanité à renoncer au diable et de croire en Jésus-Christ le Seigneur. C'est cela leur premier devoir. Mais malheureusement, cette croyance a souvent été représentée par l'Église comme étant simplement la récitation d'un credo ou comme l'assentiment intellectuel de la vérité chrétienne, un enchaînement d'idées dans la tête. Parfois, elle a été comprise comme quelque chose qui se passe quand on commence à fréquenter l'Église. Cependant, la croyance en Jésus-Christ est beaucoup plus que toutes ces choses-là. Elle est un abandon complet de soi-même à la personne de Christ. Le croyant devient concentré sur Jésus-Christ et il devient orienté. Oui, on peut le dire, il a une nouvelle orientation vers son Sauveur bien-aimé. Il aime maintenant Jésus-Christ. Il prie et il s'attache à lui. Il lui obéit, il l'adore et il attend avec plaisir d'être avec lui pour toujours, et ceci dans l'éternité. Ça ne veut pas dire que nous devons être pressés, mais nous devons le souhaiter de finir, d'être sûr de pouvoir être avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas évident, parce que nous pouvons très bien et nous écarter, même à la fin de notre vie, ça peut arriver, et il vaudrait mieux pas. Alors cette confession de Jésus-Christ comme Seigneur, avec cette profondeur et avec ce résultat, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit. En fin de compte, c'est son travail de faire que les hommes deviennent des chrétiens. Ce travail a continué pendant presque 2000 ans et il est aussi nécessaire que jamais aujourd'hui. Quand je me suis rendu compte de l'urgence de la tâche et que j'ai demandé à Jésus-Christ de remplir ma vie avec le pouvoir du Saint-Esprit, j'ai commencé à voir des centaines de gens éprouvant la joie de la deuxième naissance. Ils ont été transférés du domaine du diable dans la vie du royaume de Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il n'existera jamais une plus grande émotion dans la vie, jamais un service à l'humanité plus significatif que celle d'amener l'homme de l'obscurité dans la lumière merveilleuse du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Le repentir et la foi sont les attitudes intérieures qu'il faut pour le salut. Jésus-Christ a institué le baptême comme le signe extérieur que cette nouvelle vie a commencé. Nous en trouvons la preuve dans Saint Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, dans Actes chapitre 2, verset 41, et vous pouvez noter le chapitre 8, verset 36 et jusqu'au verset 38. Donc, on a dit de Martin Luther que chaque fois qu'il était attaqué par le diable, il lui a crié « J'ai été baptisé ». Et du reste, un jour, il a même envoyé son encrier. Il y a, paraît-il, encore la tache de l'encre sur le mur. Je ne l'ai pas vu, parce qu'évidemment, je ne me déplace pas beaucoup. Bref, chers amis, le Seigneur, en fait, il a choisi le baptême parce que il représente les fondements du salut qu'il a procuré pour l'humanité. Le sens de la racine du verbe baptiser en grec est de se plonger ou d'immerger. Selon Romains chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 11, s'il vous plaît, notez et lisez ça tranquillement, les chrétiens ont appris que leur immersion dans l'eau symbolisait leur mort à la vie ancienne et les identifiait avec la mort de Jésus-Christ sur la croix. De la même manière, leur ascension de l'eau représentait leur résurrection à la nouvelle vie avec Christ. Oui, né une deuxième fois, mais avec un changement de propriétaire cette fois-ci, ça change tout, et deux autres avantages qui sont importants du salut de Jésus-Christ sont représentés dans cet acte glorieux du baptême dans l'eau. D'abord, comme l'eau est associée avec la purification du corps, ainsi le baptême symbolise la purification complète du péché de l'âme par le sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, comme l'eau parle de notre naissance naturelle par les eaux de gestation dans la mer, elle symbolise la naissance spirituelle d'un croyant dans la race des gens de la nouvelle génération et précède le baptême additionnel par le Saint-Esprit. Ce n'est donc pas étonnant que le diable déteste et comment les baptêmes. Sa position est un peu celle du Pharaon qui a chassé Moïse et son peuple, et cela à travers le désert jusqu'à la mer Rouge. Exode chapitre 14, versets 15 à 31, et vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 et 21. Donc, souvenez-vous, les Israélites se sont échappés de ses griffes quand ils traversaient la terre sèche dans la mer Rouge. Et quand l'ennemi a essayé de traverser, l'eau a sauvé les Israélites en noyant les Égyptiens. Le peuple appartenant à Dieu a été délivré par l'eau qui symbolise le baptême. Satan, il sait que lorsque les gens de la nouvelle génération appartenant à Dieu passent par les eaux du baptême, il ne peut pas les suivre, il doit les laisser aller. Il reste tout simplement grinçant des dents de l'autre côté. Il aperçut encore quelques esclaves. Oui, chers amis, repentez-vous, croyez et soyez baptisés. Ceci a toujours été le critère fondamental et absolu de la sonnerie du clairon des chrétiens authentique et véritable. Voyez-vous, quand tout cela se fait de tout votre cœur, de tout votre esprit et votre volonté, oui, que cela devient une réalité. Alors le Saint-Esprit travaille pour transformer encore et encore, afin que vous puissiez devenir une personne entièrement nouvelle, pour être un témoin vivant. Oui, une vie nouvelle a commencé, une vie à la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Ça devrait être ainsi. Évidemment, il existe des choses qui nous dépassent. Moi, le premier, je n'arrive pas à comprendre que une personne que j'ai connue et qui a été baptisée par immersion, mais elle n'a encore pas compris que cet engagement était un engagement sérieux. C'était quelque chose qui est, on peut dire, de la vie à la mort. C'est une chose, pour moi, c'est la chose la plus importante, et je n'oserais pas, après avoir été baptisé par immersion, de retourner à certaines choses bizarres de l'ancienne vie, que je ne veux pas citer parce que ce n'est pas mon problème. Je suis assez triste que ça arrive, et que tout cela était en somme du théâtre. Nous ne devons pas, chers amis, trop jouer du théâtre. Il faut absolument nous détacher de ça. Si vous avez des dons théâtrales ou des dons pour la danse classique, etc., je ne suis pas contre la danse classique, je ne dis pas ça, mais je crois que si nous voulons vraiment servir le Seigneur, il y a des choses dans la vie que nous devons renoncer. Il y a des choses que nous devons laisser de côté. Voyez-vous, on ne peut pas avancer en continuant, en étant un pied avec le théâtre, et l'autre pied un peu avec le Seigneur. Ça ira pas, ça marchera jamais, ça. Jamais. Non, non, non. Chers amis, selon Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 6, et Éphésiens, chapitre 1, verset 3, ceux qui ont passé par la nouvelle naissance ont donc une nouvelle position dans le royaume spirituel. Ça devrait être ainsi. Ils partagent une position régnante maintenant avec Christ. Ils sont des hommes, des femmes, ça veut dire la même chose. Ils sont donc des hommes et des femmes libres dans la cité de Dieu, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ils sont assis maintenant avec Christ dans les lieux célestes et ils les a rendus dignes de partager tous les trésors de ceux qui appartiennent au royaume de la lumière. Romains, chapitre 8, verset 17, et Éphésiens, chapitre 1, verset 18 et 19, et vous pouvez encore noter le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 19. Alors, Dieu les a sauvés, sauvés de l'obscurité de la tristesse, de l'abattement qui est du domaine de Satan, et les a menés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ces personnes-là, ils vont plus dire, je vais tout balancer, Je veux tout envoyer par-dessus bord. Et je vais m'en aller n'importe où, n'est-ce pas? On n'est pas des gamins. Devenons tout doucement, s'il vous plaît, adultes. Dans cette position de privilège, ils ont une place unique de protection maintenant. Pour eux, la promesse, elle est devenue véritable, qui dit dans le psaume 91, versets 1 et 2, « Celui qui se place à l'abri auprès du Très-Haut et se met sous la protection du Tout-Puissant, celui-là ou celle-là, c'est la même chose, doit dire au Seigneur, « Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es vraiment, véritablement mon Dieu. J'ai confiance en toi. » Oui, Dieu est notre refuge et notre force. Il est un rocher et une forteresse contre les attaques de l'ennemi. Là, vous pouvez noter le psaume 31, versets 1 et 2. Il n'est donc pas étonnant que notre ami saint Paul a écrit dans Romains chapitre 8, versets 37 et 38, que nous possédons la victoire totale et que rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Cette sécurité spirituelle, elle est pour nous qui sommes les vrais chrétiens. Il faut que nous devenions vraiment des vrais chrétiens. Interdisons-nous d'être que des pseudo-chrétiens. Refusez une telle chose. Ainsi, ou si le souhaitez, si vous avez des enfants pour eux, les jeunes croyants, ils se trouvent sous le parapluie protecteur de la foi de leurs parents et de toute l'Église. Cependant, pour posséder complètement leur héritage, les jeunes doivent aussi passer par la nouvelle naissance. Dieu n'a pas de petits-enfants. Cette position de privilège que les chrétiens connaissent ne peut ou ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais exposés aux attaques de l'ennemi concernant leur âme, leur corps, leur esprit. Bien sûr que nous serons attaqués, et j'en sais quelque chose. Ça a l'air de jamais se terminer. Mais c'est à nous de humblement nous incliner devant le Seigneur, de lui dire, « Seigneur, là, je suis un peu faible. J'ai besoin de tout ton secours, mais je le veux aussi. » Ton secours. Je le désire, ton secours. Je désire marcher avec toi. C'est pas peut-être, mais véritablement, une conviction qui vient du cœur, comme vous dites en français, des tripes. N'est-ce pas? C'est bien votre langage. Bon, alors, l'évidence de la Bible, de l'histoire et de l'expérience personnelle montre que les chrétiens seront toujours tentés. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu, tout simplement, ramenant contre... Ils rament, oui, vraiment, hein, on les voit dans la barque en train de ramer, contre le courant du mal dans ce monde. Ils, on peut dire, ils éprouveront plus de tentations, donc ils seront davantage attaqués que les incroyants. Et ils vont être obligés, bien sûr, de se prémunir avec tout ce que le Saint-Esprit promet, les armes de l'Esprit-Saint, n'est-ce pas? Alors, le conseil qu'on leur donne dans cette situation est de résister à l'ennemi. Et l'ennemi fuira loin de vous. C'est pas moi qui le dis. Vérifiez Saint Jacques, chapitre 4, verset 7. Alors, si c'est écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 7, c'est que c'est vrai. Et cela doit être vrai pour nous, pour vous. Oui, les chrétiens seront tentés, c'est vrai. Et j'en sais quelque chose. Et j'en suis pas fier. Mais il n'est pas nécessaire que nous devons nous considérer vaincus. C'est ça. Il n'est pas seulement pas nécessaire, mais ça devrait pas être. Nous devrions pas être vaincus. Les chrétiens seront aussi persécutés, bien sûr. Bien sûr. Surtout de nos jours. Oui, pendant les premières attaques de Satan sur l'Église, l'apôtre Pierre a écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset, je crois que c'est verset 8 à 10, je ne suis pas très sûr là, vérifiez s'il vous plaît. Alors, votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quoi ? Cherchant qui il désire et il veut absolument dévorer, induire en erreur, vous envoyer dans des pseudo-organisations chrétiennes bizarres, peut-être même pour essayer de vous soigner. Oh là là, résistez à tout cela avec une foi ferme. Du reste, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, il a averti ses disciples qu'ils seraient persécutés et il leur a dit de se réjouir dans leur souffrance, car leur récompense serait grande dans le ciel. Oui, notre récompense sera grande dans le ciel. Selon la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 6 à 8, nous voyons que Dieu permet aux chrétiens d'être persécutés périodiquement pour mettre à l'épreuve et purifier leur foi. La Bible nous apprend que même le diable peut pousser les chrétiens brusquement en prison et même les tuer, mais à la fin, ils seront défendus par leur Père céleste. Et selon Apocalypse chapitre 2 verset 10, voyez également dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, les chrétiens peuvent même éprouver un coup de marteau de la part de Satan. Et Saint Paul, il connaissait cette expérience quand il se plaignait d'une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour empêcher que je devienne trop imbu de moi-même. Il se sentait vraiment déprimé et trois fois, il implora Dieu de l'en délivrer. La réponse du Seigneur a une signification profonde pour tous les chrétiens que nous sommes. Mon cher, ma chère fille, ma grâce te suffit, car ma puissance, elle s'accomplit dans ta faiblesse. Selon Éphésiens, chapitre 6, verset 13 jusqu'au verset 17. Oui, vous savez, Dieu a fourni à son peuple une armure spirituelle pour éviter les attaques de Satan. Si nous la portons, on nous trouvera toujours debout, même quand le diable a fait tout ce qu'il pouvait pour nous faire du mal. L'armure a comme ceinture la vérité, la cuirasse de la justice pour chaussure, et le zèle véritable, pas théâtral mais authentique, que donne l'évangile de la paix, le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin, ainsi que le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la sainte parole de Dieu. Ceci, bien sûr, est une description d'un soldat romain et en tenue de campagne, on le voit. C'est aussi une description d'un chrétien, pourquoi pas, qui s'avance vers les légions du diable. On peut voir cela Très bien, comme ça. Et les personnes nées de nouveau sont des soldats dans une armée. Un thème qu'on reprend dans beaucoup de d'hymnes qui sont chantés avec le cri de guerre, tels que « En avant, soldats de Christ !»« En avant, soldats de Christ !» marchant comme à la guerre avec la croix de Jésus-Christ. « En avant !» Et les paroles de ces hymnes ont de la signification et de l'importance quand nos yeux sont grand ouverts à la réalité de la guerre spirituelle. On demande aux chrétiens de se battre dans une bataille dans laquelle ils savent qu'ils ne peuvent jamais être battus en fin de compte, car Christ a gagné la bataille pour nous, pour toi comme pour moi. Et quand nous nous engageons dans ce conflit, il est extrêmement important que nous nous rendons compte que nous participons simplement à ce combat. C'est à l'Église, oui, aux gens qui ont passé par la nouvelle naissance, que Jésus-Christ a promis, selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pas dit à nulle part que ça doit être à quelque part dans un lieu très précis en Italie. Et qu'il y aura des Judas qui vont même trahir, s'ils le peuvent, et ils y arrivent, un pape. Tout existe dans ce monde pseudo-chrétien. Les véritables chrétiens se couvrent en se protégeant les uns les autres par leur foi mutuelle. J'en sais quelque chose parce que s'il n'y avait pas, au moins, je sais qu'il y a un couple véritable de pasteurs qui prie, et c'est pour ça que je peux faire ce message maintenant. Je ne pourrais jamais le faire sans qu'il y ait quelque chose de particulier qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit Saint, qui s'empare de quelqu'un qui n'a pas tellement les capacités comme moi. Bon, oui, il est vrai que dans cette bataille, chers amis, ensemble, nous pouvons rester debout, ensemble. Mais divisés, nous tomberons tôt ou tard. L'Église ressemble donc plutôt, on peut dire, à une tortue romaine qu'à un groupement de soldats solitaires. La tortue était un bataillon de soldats se trouvant côte à côte, dos à dos, bouclier à bouclier, jusqu'à ce qu'ils ont fait une sorte de mur massif, une sorte de tank humain. Et ceux du milieu tournaient leurs boucliers vers le haut, fournissant un toit métallique pour se protéger eux-mêmes et pour protéger les autres. Une fois formée, cette masse solide de métal de se dirigeait donc progressivement vers des objectifs dans le territoire de l'ennemi. Alors ils sont devenus presque invisibles, invincibles, dans leur solidarité. Oui, grâce à ça, ils sont devenus presque invincibles, parce qu'il y avait une solidarité comme un bloc. Or, les chrétiens aussi doivent se joindre en unité, formant des tortues de la prière et coupant en travers les lignes de dénomination et de credo en chaque lieu où la bataille spirituelle fait rage. Oui, l'Église doit être une armée puissante pour marcher sans arrêt contre les positions que l'ennemi occupe maintenant dans le monde, ainsi que dans des cœurs humains. S'opposant à une telle offensive, les tactiques de Satan sont toujours de diviser l'Église. Ça, c'est son travail. Et de placer un chrétien contre un autre. Oui, un chrétien contre un autre, ça, c'est le travail de l'ennemi. D'exciter ainsi les dirigeants en conflit de partis, de causer des hérésies et des schismes divers. Et selon Saint Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'au verset 23, Satan envoie même des faux prophètes parmi nous pour causer la confusion et la division. Eh oui, des chrétiens qui, par leurs paroles et par leurs actions, divisent l'Église, ils agissent comme les émissaires de Satan. Et selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, une action sévère, disciplinaire, doit être entreprise contre eux. Et selon Tite, chapitre 3, verset 10, ils doivent, si nécessaire, même être expulsés pour préserver l'unité vitale des véritables enfants de Dieu qui sont sincères, pas du théâtre, sincères. Donnant donc suite à notre description de la tortue de l'Église, la tortue des gens nés de nouveau et fidèles appartenant à Dieu sont une véritable protection contre les ravages de Satan. En y ajoutant les promesses du Seigneur et la connaissance que nous avons de sa victoire, il est certain qu'aucun chrétien, en participant profondément avec les autres, a besoin d'avoir peur du diable et de toutes ses attaques. Malheureusement, j'ai rencontré certains chrétiens qui sont effrayés dans le ministère, Et ceci est triste parce que la peur, qui est le contraire de la foi, est une porte d'échec dans notre défense. Et une fois qu'un chrétien a vraiment peur, il est devenu vulnérable au pouvoir de l'ennemi. Ceci était ainsi dans le cas de trois chrétiens qui un jour avaient téléphoné à un pasteur dans un grand désarroi. Et le jeune homme a dit au pasteur d'un air affolé, « Nous venons de passer près d'une maison où une séance occulte avait lieu. » Je peux même vous dire le lieu. C'était à B, entre le canton de Vaud et le Valais, c'est entre deux. Et là, en effet, il y a des satanistes, mais il y en a partout. Alors, il dit qu'il y avait une sorte de nuage noir qui semblait sortir de la porte pour nous envelopper. Et le jeune homme qui faisait le reportage de l'incident était dans une telle terreur qu'il pouvait à peine respirer et il tremblait de peur. « Venez nous délivrer » a-t-il crié. C'était l'appel urgent, « Venez nous délivrer ». Et le pasteur leur a expliqué leur position en Christ. Il leur a dit qu'ils pouvaient demander la victoire qui leur appartenait au nom de Jésus-Christ. Et il leur a dit « Retournez sur place » et commandez aux esprits du mal de quitter vos amis et la région, et ceci dans le saint nom de Jésus-Christ. Et il est vrai totalement vrai, que ça a fonctionné, et après quelques temps, c'est pas venu d'un jour à l'autre, après, je crois, quelques mois, eh bien, ils ont même dû changer de lieu, de localité. Oui, ça, c'est donc notre travail de lutter contre les choses qui sont de l'ennemi. Et il y en aura de plus en plus ces derniers temps que nous vivons. Que nous vivons sous la grâce, je voulais dire, n'est-ce pas ? Nous sommes encore à la fin du temps de la grâce, de cette dispensation de la grâce. Oui, chers amis, souvent les chrétiens qui cherchent de l'aide ont tout simplement été effrayés. Ils ont peur des endroits où sont pratiquées des choses occultes. Et le pouvoir du diable sur eux a été directement en proportion, évidemment, à l'étendue de leur peur. Des chrétiens qui résistent au diable s'apercevront qu'ils s'enfuient plus vite qu'on pense. Une vieille fable chinoise peut nous apprendre une certaine vérité. On dit qu'il était une fois une ville qui était tourmentée par un dragon terrible. Plus les gens de la ville s'enfuyaient, plus le dragon grandissait, et ceci jusqu'à ce qu'il soit devenu aussi grand qu'une montagne. Or, un jour, un garçon, seulement armé d'un simple bâton, est venu dans la ville, et à la stupéfaction des gens qu'il a proposé de tuer le dragon. Et ce garçon, il s'est rendu compte du secret de la victoire. Et il est parti avec confiance. Finalement, il est revenu avec la bonne nouvelle que le dragon était mort. Comment l'a-t-il tué ? Il s'est simplement approché de plus en plus près de l'ennemi, sans aucune peur. Et pendant qu'il faisait ainsi, le dragon est devenu de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il puisse le lever et le mettre dans la paume de sa main et le tuer avec son bâton. Ceci est une image de David et de Goliath. En principe, ceci démontre comment nous devons être conscients de notre autorité et de notre victoire en Jésus-Christ et nous montre la manière de traiter avec l'ennemi. Les chrétiens qui traitent avec le diable sont en sûreté contre ses attaques. Ils sont en sûreté, mais non pas immunisé, et c'est un fait que parfois les chrétiens laissent Satan les influencer à un tel point qu'ils peuvent surmonter leur défense solitaire et entrer en eux. Et ceci était vrai également pour Ananias et sa femme Saphira, dans l'église primitive. Ils étaient sans doute des membres de la première communauté chrétienne, mais cependant, ils se sont, hélas, éloignés de la formation de la tortue quand ils étaient d'accord, les deux, de tricher leur communauté. Et selon Actes chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11, l'apôtre Pierre a demandé à Ananias « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur jusqu'au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Hélas pour eux, évidemment, hélas, leur fin était désastreuse. Il semble, voyez-vous, que dans le cas de l'église de Galate, le diable a pu gagner le contrôle, non seulement sur les individus, mais sur une église toute entière. L'apôtre Paul a écrit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été révélé comme crucifié ?» Galates chapitre 3, versets 1 à 2. D'autres écritures du Nouveau Testament, telles que Timothée chapitre 4, verset 1, révèle que certains des premiers chrétiens ont succombé aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons. Dans chaque cas que j'ai connu de croyants possédés, il y a toujours eu une raison qu'on pouvait déceler comme ils sont devenus perturbés. Hein? On peut dire qu'il y en a qui deviennent perturbés. Ils font n'importe quoi. Parfois, ils ont eu une association avec des démons en s'engageant dans le domaine de l'occultisme, soit avant ou après la conversion. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 20 et 21. D'autres exemples que j'ai connus, mais que d'autres ont connu également, pour que Satan puisse avoir de l'influence sur des croyants, sont premièrement, pas de renonciation au péché. Ils ne sont pas totalement renoncés. Ils ont fait croire qu'ils ont renoncé. Ils sont tellement théâtrales qu'ils ont réussi à le faire croire avec une certaine conviction. Il y a des assassins et des voleurs dans des magasins de bijoux. Ils sont convaincus qu'ils n'ont pas fait de mal. Ils sont sincèrement convaincus qu'ils sont innocents. Oui, ça existe. Deuxièmement, la désobéissance prolongée est coupable envers Jésus-Christ. C'est pas bon, cela. Troisièmement, les perversions sexuelles et la pornographie. Quatrièmement, l'usage continuel des drogues. Cinq, vous savez, fumer un joint par-ci, par-là, c'est pas dit que c'est une bénédiction divine. Être membre d'une église ou même responsable d'une communauté et fumer des joints, c'est pas dit, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, que ce soit une bénédiction. Moi, je ne le pense pas. Cinquièmement, nous avons la rébellion contre Jésus-Christ. Sixièmement, ne pas céder notre moi au Seigneur. Ceci permet à Satan de contrôler quelques territoires de notre âme. Il ne se gênera pas. Septièmement, s'égarer de nouveau dans le monde. C'est vite fait, plus vite fait qu'on pense. Et huitièmement, des accès répétés de colère ou de violence. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 20 et 21. Avoir des colères et des moments de crise violente, incontrôlables, ça démontre quand même un problème. Ça démontre un problème. Dans la plupart des cas de ces échecs de la vie chrétienne, le repentir profond, la réconciliation, la confession et la foi dans l'amour et le pardon de Dieu vont suffire pour restaurer celle et celui qui se repent sincèrement. Se repentir théâtralement, on ne peut pas blouser, on ne peut pas, je ne sais pas comment il faut dire en français, on ne peut pas faire croire au Seigneur qu'on est sincère quand on ne l'est pas. Voyez-vous, je pense, n'est-ce pas? Donc, parfois, quand Satan a sans aucun scrupule utilisé la faiblesse de certains chrétiens pour établir de nouveau sa domination sur elle ou sur lui, le ministère des délivrances devient plus que jamais nécessaire. Bien sûr, personne n'aime qu'on dise à la personne « il faudrait peut-être une délivrance ». On n'aime pas cela. On est tellement orgueilleux, imbu de soi-même, de nous-mêmes, que nous pensons que nous sommes presque parfaits. Et c'est seulement à ce moment-là, quand nous nous humilions, que le chrétien est restauré et qu'il commence à jouir à nouveau de la vie victorieuse des enfants de Dieu. Cette vie victorieuse et triomphante, elle est possible seulement pour les gens qui sont nés de nouveau, véritablement, pas théâtralement. Eux seuls peuvent se tenir debout contre l'attaque du diable. Cependant, ils savent qu'ils peuvent gagner, à cause de la victoire de leur Sauveur Jésus-Christ, la superpuissance surnaturelle. Il a battu toutes les forces du mal et il possède maintenant une position élevée au-dessus de toute principalité et tout pouvoir, et chaque nom qui peut être nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le prochain. Éphésiens chapitre 1, verset 15, jusqu'au verset 23. Donc, de vrais croyants ne peuvent pas se permettre de se préoccuper trop du pouvoir de Satan parce qu'ils connaissent ses frontières et ses limites. Je ne vais pas parler de Satan sans arrêt. Surtout pas. Ils sont un peuple qui fixe donc leurs pensées continuellement, et c'est ce que nous devons faire sur le Seigneur Jésus-Christ et non pas sur l'ennemi. Et nous devons savoir que le Dieu de toute puissance et de toute force, c'est l'auteur et le donateur de toute bonne chose et à qui elles appartiennent, et il les défendra de tout mal qui peut nous assaillir notre corps, assaillir notre esprit et notre âme. Et nous voyons dans Saint Matthieu chapitre 6 verset 13 que Dieu, il est devenu notre refuge, il est ton refuge, et la force répond continuellement, la puissance, à la prière du Seigneur. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ils sont bien conscients que Satan peut ravager le monde des hommes qui se sont donnés à lui. Et ils savent aussi que tout ce que le diable fait pour tenter, pour assaillir et pour faire du mal ou même écraser les chrétiens qui sont fidèles sera renversé pour leur bien, car finalement ce sera la victoire. Oui, finalement, Satan ne peut que faire avancer les intentions de Dieu pour ses enfants. Car Satan est un ennemi battu et Jésus a triomphé. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Ceci est vraiment la bonne nouvelle, que les personnes qui sont nées de nouveau doivent déclarer partout dans le monde, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour établir son royaume glorieux. Amen. Chers amis, vous savez, je ne pourrais pas faire ce que je fais si le Saint-Esprit ne s'était pas emparé de moi pour m'aider. Parce qu'à 85 ans, c'est pas dit que c'est très facile de faire une étude de cette ampleur et aussi de, je pense, de cette qualité chaque jour. En tout cas, à une moyenne de 5 à 6 CD par semaine. Je ne pourrais pas le faire sans une super puissance qui m'aide. Impossible à 85 ans. Nous allons prier maintenant ensemble. Prions. Seigneur, notre Dieu, tu nous as fait la grâce de voir la lumière d'un nouveau jour. Puissions-nous te prier maintenant avec sincérité et au milieu des devoirs et des occupations de cette journée, et chercher ta gloire et fixer nos affections sur les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à ta droite. Nous triompherons par des prières humbles et ferventes, car ton Saint-Esprit peut seul subvenir à notre faiblesse et agir en nous selon tes promesses sacrées. Que cet esprit de lumière et de vérité sanctifie nos cœurs qui nous conduisent au pied de ce Sauveur qui est plein de miséricorde et qui est venu dans le monde pour nous enseigner le chemin qui conduit au royaume de ton Père et qui est mort pour nous obtenir le salut éternel. Puissions-nous écouter ta voix qui ne cesse de nous appeler et de se faire entendre non seulement autour de nous, mais au fond de nos cœurs. Seigneur, nous t'invoquons pour nos familles, pour nos amis, pour tous les hommes et femmes qui sont nos frères et sœurs, pour les malheureux et les affligés, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Exauce nos imparfaites prières par le Saint-Nom et pour l'amour de ton Fils, notre unique Sauveur. Amen. Amen.